Accès libre.
Bon vendredi tout le monde. Vendredi 18 septembre, à deux jours de la journée Terry Fox, à quoi, trois semaines à peu près du début du scrutin par anticipation qui se déroule du 9 au 12 octobre. Et à 12 jours du début du mois d'accessibilité dans les bibliothèques de Montréal, Jean-François Martin, bonjour.
Eh bien, bonjour, Luc.
Jean-François qui est encore avec moi, lui qui est professeur d'éducation spécialisé au Cégep du Vieux. Et c'est super agréable parce qu'on est allé puiser dans la banque d'étudiants que Jean-François connaît pour comprendre un peu comment ça se passe, un programme d'éducation spécialisée, qu'est-ce qu'ils ont dans le ventre. Qu'est-ce qu'ils avaient avant le programme, puis qu'est-ce qu'ils ont en sortant du programme? Évidemment que la vie va les former davantage. Mais,
je l'espère.
Oui, mais on va passer une belle demi-heure avec Raphaëlla et Jonathan un peu plus tard.
Excellent.
Sinon, qu'est-ce qu'on a au menu, monsieur?
Bien, on va débuter avec monsieur Peter Sheremeta, qui est directeur provincial de la Fondation Terry Fox, parce qu'en fin de semaine, on va avoir le 35e anniversaire qui marque la fin de la course, justement, de Terry Fox. Et je pense que monsieur Sheremeta, vous êtes avec nous.
Bonjour.
Eh bien, bonjour. Bien content de vous accueillir avec nous.
Merci beaucoup.
Et écoutez, moi, Terry Fox, ça me dit quelque chose. Mais je me demandais, est-ce que pour la nouvelle génération, Terry Fox a le même impact? Et qui il est, ce bonhomme-là?
Je pense que c'est presque le même impact. Comme les personnes de notre génération qui étaient vivants quand il a dû arrêter de courir, on se rappelle de ça. On se rappelle de comment c'était tragique qu'il a dû arrêter.
Ouais.
Maintenant, la nouvelle génération, il connaît bien Terry Fox. Il y a chaque année 3 millions d'élèves dans les écoles à travers le Canada qui participent dans une journée Terry Fox, qui est formidable. C'est quasiment 10% de notre pays qui court dans une journée Terry Fox. Alors, il est toujours bien vivant dans les écoles aujourd'hui.
C'est probablement un des événements philanthropiques et en même temps mis en forme le plus gros au Canada. Si je regarde le nombre de participants,
quand on a fait la première journée Terry Fox des écoles, en 2005, on avait 3,5 millions de coureurs dans la même journée. Et on s'est demandé, est-ce que c'est le plus grand événement dans l'histoire du Canada?
Mmh.
Et c'était intéressant, on a regardé c'est quoi les historiques des plus grands événements. Je pense que la visite du pape à Toronto, il y a eu 500 000 personnes. Et on se demandait, c'est quoi le plus grand événement? Et c'est une question qu'on se pose toujours à cette date, parce qu'on ne connaît pas un événement qui était plus grand que ça.
Ouais.
À part qu'une élection.
Oui, probablement. Donc, on peut dire que ce monsieur-là, il a réussi quelque chose d'extraordinaire. Là.
Oui, oui.
Il laisse quelque chose derrière lui avec son héritage.
Oui, mais c'est parce que Terry était tellement honnête. Il a couru pour toutes les bonnes raisons. Les personnes qui ont rencontré Terry, ils ont vu qu'il avait d'intégrité. Et il a fait ça pour les bonnes raisons. Et ça, c'est pourquoi 35 ans plus tard, son cause est plus fort qu'il était en 1980. Parce que les personnes, on a vu de quel type d'homme il était.
Mmh.
On a aimé ça et on a dit, mais on va continuer à sa place. On a saisi sa flambeau.
On se souvient qu'il était presque passé dans l'anonymat au Québec, à tout le moins. Là. Donc, c'est certain que... puis quand on regarde le recensement toponymique, c'est un des endroits au Canada où il y a le plus de mentions, le Québec.
Oui, mais Terry, quand il a couru au Québec, dans les autres provinces, il avait des bénévoles qui ont fait de la promotion de son périple, de son course. Quand il est rentré dans notre province, dans le temps, il a couru pour un organisme caritatif et leur directeur provincial a fait la décision de ne pas appuyer cette bénévole dans ce temps-là.
Mmh.
Et leur organisation, ils ont dit, mais nos bénévoles, ils sont tous brûlés. On vient de faire notre campagne de collecte de fonds annuelle et on ne peut pas, un mois plus tard, aller à eux encore et les redemander à lever des fonds. Alors, je comprends son décision.
Mm-hmm.
35 ans plus tard, c'est facile à moi de dire peut-être que c'était la mauvaise décision.
Ouais.
Mais c'était sa décision. Aussi, Terry a couru avec son meilleur ami qui conduisait la camionnette. Son frère était là pour les aider aussi. c'était trois gars de Colombie-Britannique qui ne parlaient pas français. Et il faut parler français pour faire des choses au Québec. Alors, ça n'a pas aidé non plus. Mais je vais dire qu'au Canada, il y a 15 rues Terry Fox. 10 de les 15 rues sont ici, dans la belle province.
Eh oui, j'ai vu ça, effectivement. Et ouais. vous avez parlé de son honnêteté. Et moi, effectivement, j'ai vu un petit segment d'un film, d'un documentaire, et on voit Terry en train de courir. Et il prenait le temps de s'arrêter et de saluer les gens. Hein. Je le voyais sur une grande route principale. Et là, à un moment donné, il y a un petit attroupement de 3-4 personnes. Il s'arrête, il prend le temps de serrer les mains, de leur parler, avant de repartir sur son rythme.
Oui. Mais j'imagine il était heureux de voir que les personnes ont donné un don pour le cancer. Ouais. Il a couru pour cette raison. C'est intéressant parce que Terry, il a couru à peu près un marathon par jour.
Ben oui, 5373 kilomètres, qu'on nous dit.
Oui. Et aussi, en surplus de ça, il a dû être Terry Fox. Il a dû aller parler à des écoles, parler avec la média. Alors, non seulement courir le marathon, mais tout le job d'être Terry Fox aussi. Ouais. C'était quelque chose pour un gars de 22 ans.
Ah oui, non, c'était effectivement énorme. Et là, on va fêter en fin de semaine le 35e anniversaire qui marque la fin de la course de Terry Fox.
Oui. C'est le 1er septembre 1980, il a dû arrêter parce que le cancer est retourné. Au fin du marathon de l'espoir, Terry a couru un marathon à chaque jour avec deux tumeurs. Une tumeur dans son poumon droit, qui était la grandeur d'un ballon de golf, et une autre tumeur dans son poumon gauche, qui était la grandeur d'un citron. Et finalement, il n'était plus capable de courir avec ces deux tumeurs-là.
Mais oui, avec raison. Mais il a quand même fait 143 jours que sa course a duré. Donc, il s'est rendu jusqu'à quel endroit?
À Thunder Bay, Ontario.
Thunder Bay.
Oui, il a couru deux tiers du Canada. Si on prend le kilométrage que Terry a fait sur le Marathon de l'Espoir, 5373 kilomètres, et le kilométrage qu'il a fait en training pour se mettre en forme pour courir ça, il a fait un autre 5000 kilomètres avant. Alors, c'est plus que 10 000 kilomètres. Ça équivaut un quart la circonférence de notre planète.
Eh bien, voilà, c'est plus que le Canada, ça.
Oui. Et c'est avec une jambe artificielle, avec la technologie de 1980.
Oui, on le voit très bien là, sur le documentaire, justement, que sa course n'est pas évidente, là.
Oui. C'était pas facile.
Non.
Peter, lorsqu'on regarde 35 ans plus tard, souvent, il y a des modes. J'espère que non pour eux, là, mais je pense que la SLA va avoir de la difficulté à maintenir le momentum qu'ils ont démarré l'an passé avec le saut de glace.
Oui.
Vous avez parlé en 2005 d'environ 3,5 millions de coureurs et 10 ans plus tard, il y en a quand même encore 3 millions. Comment expliquer que cette mode-là se maintient?
Des fois... C'est drôle. Mes amis seront les premiers à dire pour s'habiller, je ne suis pas un gars de la mode, OK? Mais il y a certaines modes qui sont des classiques parce qu'ils sont bons. Et nous, on va toujours être à la mode parce qu'on a du substance. Comme en 2004, on avait 1,5 million d'élèves qui ont participé. Et après ça, on est allé à 3,5 millions dans un an. Et de tous les... Alors, on est rendu à 3,5 millions de participants. Maintenant, on est 3 millions de participants. Beaucoup de personnes ont vu qu'est-ce que Terry représente et les valeurs que nous, on essaie de préserver à ce jour. Alors, autrement dit, nous, on ne donne pas de prix à la personne qui ramasse le plus de fonds. Nous, les valeurs qu'on veut partager dans les écoles, c'est ramasser des fonds, pas pour gagner des prix, mais parce que des personnes ont besoin de l'aide.
Et là, on parle de centaines de millions d'amassés, là.
Des centaines de millions, mon Dieu, oui.
Depuis des années?
Cette année, on va dépasser le 700 millions ramassés au nom de Terry Fox.
C'est quand même extraordinaire.
Oh, c'est énorme. C'est ça,
c'est au Canada seulement?
Non, globalement.
Oh, globalement, OK. Globalement. Parce qu'il faut expliquer que c'est également une activité qui a lieu ailleurs.
Oui, il y a des journées Terry Fox, des événements Terry Fox dans beaucoup d'autres pays. Je pense que c'est à peu près 25 ou 28 pays cette année. Alors, à Cuba, c'est la plus grande des événements.
Oui?
Oui, à chaque année, il y a plus que 1 million de Cubains qui courent dans la journée Terry Fox.
Et ça fait plusieurs années?
Ça fait plusieurs années, oui. Ah. Même, ils ont tourné une chanson, ils ont écrit une chanson reggaeton au sujet de Terry Fox.
Ah oui, il faudrait bien l'avoir ici pour l'entendre.
C'est spécial.
Oui.
Et eux, leur station de radio nationale, ils font un décompte. Ils font ça un samedi matin à 10 heures le matin. Et ils font un décompte jusqu'à 10 heures. Et après ça, tout le pays part.
Ah oui.
C'est spécial.
Ah, c'est particulier.
Ben, c'est quelque chose qui touche justement la population entière de la Terre. Là. Alors, donc, cette approche de Terry vient les chercher profondément.
Oui, oui. On aime ça dire que le cancer n'a pas de frontières et la journée Terry Fox non plus.
Ouais.
Et je trouve que Terry Fox est un bon ambassadeur pour notre pays. Qui peut représenter mieux l'image du Canada que Terry Fox? Il y a bien du monde qui dit que c'est notre plus grand héros dans notre histoire. Et moi, j'aime ça penser que le plus grand héros de mon pays, c'est pas un gars militaire, mais c'est un étudiant qui a voulu créer un meilleur monde.
Oui, effectivement. Et là, on a ce dimanche des activités pour justement la journée Terry Fox. Et je pense qu'il y a des activités au Québec.
Oui, il y a 35 communautés au Québec qui vont organiser une journée Terry Fox. La plus grande sera au Vieux-Port de Montréal, dimanche matin à 9h30 le matin. Mais il y a beaucoup de journées Terry Fox à travers le Québec, spécialement dans la région du Grand Montréal. Il y a beaucoup de villes aux banlieues qui le font. Et les personnes qui aimeraient avoir plus d'informations là-dessus, c'est sur notre site Internet journeeterryfox.org.
OK.
Et aussi, ils peuvent contacter notre bureau. Notre numéro de téléphone, c'est le 1-888-T-FOX-RUN. Alors, 1-888-836-9786.
Excellent.
Vous m'avez déjà dit que Peter, que Terry Fox était votre héros quand vous étiez préadolescent.
Oui.
Souvent, on a des chanteurs, des sportifs comme héros. Vous, c'était un coureur qui n'a pas réussi à finir.
Oui, mais quel coureur, hein? Quelle inspiration dans ma vie. Avant, j'ai commencé à travailler à la Fondation Terry Fox. J'ai animé une cour de recherche d'emploi. Et c'était pendant la récession dans les années 90. C'était pas facile à trouver des jobs. Et la première journée de cet atelier, j'ai rentré avec un T-shirt Terry Fox. Et je disais, comment les gars, si Terry Fox était capable de courir tout le Canada, le deux tiers du Canada sur une jambe, on peut trouver un job, oui. Et comme il m'a inspiré, il a inspiré beaucoup, beaucoup de personnes. Il y a tellement de qualités que Terry Fox avait qui résonnent toujours aujourd'hui que oui, il était mon héros. Je suis fier de toujours travailler pour mon héros et j'espère de toujours travailler pour lui.
Vous nous avez mis en contact avec une fille qui a décidé, elle aussi, de se donner beaucoup pour la journée Terry Fox, cette fois du côté de Verchères. On va parler à Stéphanie tout de suite après Daniel Lavoie. Merci beaucoup, beaucoup, Peter. Bonne journée dimanche.
Merci beaucoup. Et vous,
merci,
et Stéphanie, vous êtes un rock star. Merci pour organiser ça, Verchères, Stéphanie.
Oui, vraiment. On s'arrête avec Lavoie qui nous chante les Beatles, puis ensuite on va faire contact avec Stéphanie Briand.
The long and winding road that leads to your door will never disappear. I've seen that road before. It always leads me. Many times I've been alone. I've cried. Anyway, you'll never know the many ways I've tried, and still they lead me back to the long winding road. You left me standing.
Bonjour Stéphanie Briand.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Ça va très bien, vous-même?
Oui, vous savez que la barre est haute. On vous a encensé, on a dit que vous étiez... En fait, tiens, Peter, juste avant, Daniel Lavoie disait que vous étiez une rock star. d'ailleurs, bon, vous savez combien il y a d'événements Terry Fox, et on avait demandé à Peter Sharametta de nous mettre en contact avec une personne, là, une organisatrice, a tombé sur vous. Alors là, on a
des grandes attentes.
Ouais, on présume que votre statut sera au Mégrin éventuellement.
Ah,
aimeriez-vous ça être en cire, Stéphanie?
Pardon?
Est-ce que vous aimeriez être en cire un jour?
Y penser?
Être en cire? Une statue de cire?
Ça faisait pas partie de mes objectifs dans la vie. Là.
Okay. Pourquoi organiser un 20 septembre la journée Terry Fox dans votre coin à Verchères?
Ah, parce que pour moi, ben la journée Terry Fox, c'est extrêmement important. C'est une bonne cause pour amasser des fonds pour la recherche sur le cancer. Moi, j'ai perdu 3 amis dans les 18 derniers mois, des amis qui étaient autour de la quarantaine, début quarantaine, qui sont décédés de cancer. Puis, ils ont lutté longtemps et ils ont essayé beaucoup pour s'en sortir, mais finalement, ça... Ils sont décédés, mais ils croyaient, eux, fortement en Terry Fox et en la recherche sur le cancer.
Ouais. Vous couriez, avant de décider de prendre en charge l'organisation, on me dit que vous couriez à la journée Terry Fox.
Oui, ça doit faire pas loin de 10 ans que je participe à la course. Je faisais un 5 km à la marche. Dans les dernières années, je le courais, le 5 km. Puis aussi, dans les 4 dernières années, j'ai participé en tant que bénévole. Je portais fièrement le costume de Madeleine de Verchères, qui est chez nous notre héroïne à Verchères.
OK. Es-tu morte, elle, déjà? Bien, je sais qu'elle est morte aujourd'hui, là, mais j'essaie de me souvenir de l'histoire. Je sais qu'elle a défendu le village, là, mais quel est le lien entre Madeleine de Verchères et Terry Fox?
Et Terry Fox, c'est ça. Ben nous, c'est parce que c'est sur le site, l'événement se déroule à Verchères, tout près de la statue de Madeleine de Verchères, qui représente très bien notre ville. Donc, depuis des années, il y a une personne qui se costume en Madeleine et elle fait en fait le maître de cérémonie pour la journée.
Pour chaque événement ou uniquement pour cette journée-là?
Uniquement pour la journée de Terry Fox, oui.
OK, ouais. Mais c'est quand même particulier. J'essaie quand même encore de trouver le lien, là, mais je trouve ça sympathique.
Oui, ben, c'est pour nous représenter, nous, à Verchères, puis elle a eu beaucoup de courage, puis elle a marqué l'histoire de notre ville. Donc,
comme Terry Fox.
Exactement, voilà. Oui.
Anne-Laure me disait que le bénévolat, c'était pas nouveau pour vous.
Non, moi, ça fait... J'ai organisé des collectes de sang pour Aimant Québec pendant 13 ans. Et maintenant, j'ai arrêté. Puis là, je m'occupe plus maintenant de Terry Fox. Mais aussi, je suis dans d'autres organisations comme, par exemple, la Fête nationale ici à Verchères. Ça fait 4 ans que je m'occupe de la Fête nationale. Oui.
Est-ce que cette année, cette édition-ci, va varier des autres éditions de la journée Terry Fox à Verchères, maintenant que c'est Stéphanie Brien qui l'organise?
Ah, ben cette année, moi et j'ai 3 autres amis qui se sont joints à moi pour rejoindre le comité organisateur. Donc, nous, on est des 109 et puis on veut toujours améliorer l'événement. Puis, on essaie de rajeunir un petit peu l'image, de présenter ça avec des nouveaux bénévoles, impliquer des jeunes bénévoles de Verchères aussi. Puis, on veut mettre ça un peu plus dynamique avec des points sur le parcours, avec de l'encouragement, de la musique. On essaie c'est comme d'améliorer un petit peu la journée, en fait. Là. Ouais.
L'idée de... Qu'est-ce que vous aimez dans l'organisation? Soit celle-là ou n'importe quelle organisation d'événements, là.
Mm-hmm. Bien, j'aime ça avoir un but, un objectif, puis arriver à l'atteindre. Puis moi, quand je m'implique dans quelque chose, je donne toujours mon 200%. Je suis une fille qui a beaucoup d'idées, qui a beaucoup de nouvelles idées, puis qui cherche toujours à améliorer. Puis j'ai aussi beaucoup de temps disponible pour pouvoir m'impliquer. Donc, pour moi, c'est ça ma paye. Tu sais, pour le bénévolat, c'est ma paye, c'est de voir le résultat, puis de voir que les gens ils sont contents de voir ce que j'apporte, tu sais, ma touche personnelle là, dans chacun des événements que j'organise. Tu sais, je mets ma petite touche à moi, puis je le vois, le résultat, là, dans les yeux des gens qui y participent. Puis, ça me fait chaud au cœur. C'est ça qui me donne mon carburant, si on veut, pour continuer dans des belles causes comme la journée Terry Fox.
Ah, vous me semblez très motivante, chère dame.
J'imagine
que vous avez de la facilité à aller chercher des bénévoles autour de vous.
Oui, quand même. J'ai quand même, moi, 3 enfants qui sont... dans le début de l'adolescence, puis avec leurs amis à eux, c'est des nouveaux bénévoles qu'on peut aller chercher. Puis j'ai quand même un grand cercle d'amis ici dans mon entourage. Donc auprès de mes amis, je vais recruter aussi des nouveaux bénévoles. Puis les gens sont toujours contents, dans le fond, de s'impliquer pour une bonne cause. Ouais. Donc ça n'a pas été très difficile de trouver des nouveaux bénévoles pour la journée Terry Fox.
A-t-on déjà une idée du nombre de participants? Je présume qu'on doit s'inscrire à l'avance?
En fait, il y a beaucoup d'inscriptions qui sont le matin même sur place. Là, on a une petite idée comme ça sur la page Facebook. On a envoyé des invitations à nos contacts, à nos amis, mais c'est pas rien d'officiel. C'est plus oui, je participerai, mais c'est rien d'officiel. Par contre, par Internet, sur le site de Terry Fox, de la Fondation Terry Fox, on pouvait créer des équipes, puis commencer à recruter des gens pour faire partie des équipes, puis eux vont participer la journée même. Ça nous donne, on voit qu'il y a des gens qui sont inscrits, mais ça ne nous donne pas encore une bonne idée de la journée même, le nombre de participants qu'on va avoir.
Alors, je pose ma question différemment. Vous vous attendez à combien de participants?
Combien de participants? Cette année, on estime environ 550 participants.
Pour Verchères?
Oui, wow. Oui. Mais c'est pas seulement les gens de Verchères qui viennent participer. On a souvent les villes environnantes là, qui viennent, soit qui connaissent des gens qui habitent à Verchères, puis ils viennent les encourager, ils viennent les supporter. C'est ça. C'est pas seulement les gens de Verchères. Ouais.
Est-ce que... on a un objectif financier. Est-ce qu'il y a des choses qui pourraient décevoir Stéphanie Brien ou au contraire, on est là pour créer l'événement puis advienne que pourra?
Bien, on est là pour créer l'événement. On ne s'est pas assis sur nos lauriers. On a vraiment essayé des nouvelles façon d'aller recruter des dons. On a recruté auprès de nouvelles entreprises qu'on n'allait pas voir dans le passé. Donc, notre objectif, c'est certain que c'est toujours au moins un petit peu dépasser les années précédentes. Puis, oui, on met tout notre 100%, toute l'équipe dans l'organisation donne ce qu'ils peuvent pour réussir, mais ce qu'on aura atteint, ce sera ça. Mais c'est ça. On baisse pas les bras, puis on garde espoir d'atteindre quand même des nouveaux records.
Lorsqu'on est organisatrice, on est super occupé durant l'événement. Pensez-vous avoir le temps, en courant ou en marchant, de penser à ces trois personnes-là qui vous ont quitté, ou vous risquez plutôt de le faire lundi? Ou est-ce que vous êtes du genre dans ces événements-là où non, on se donne, on organise, on n'est pas à je sais pas moi, au souvenir, on se souviendra un autre tantôt quand on sera seul avec nous-mêmes?
Bien, c'est certain qu'on a la tête à s'occuper durant l'événement. Par contre, on a un beau moment, une minute de silence qu'on fait durant avant la course. Puis vraiment, ça, c'est un moment où tout le monde pense aux gens qui aiment, puis aux gens qui combattent. Puis c'est une belle minute de silence qui est symbolique pour nous. Donc, c'est certain que je vais avoir au moins cette belle grosse minute-là à penser aux gens que je connais qui sont décédés. Mais j'y pense à chaque jour, donc ils sont bien importants pour moi.
Savez-vous, Stéphanie, moi qui n'ai jamais participé à une journée Terry Fox, s'il y a beaucoup de gens atteints du cancer qui sont là, que ce soit pour marcher, pour voir, ou juste peut-être pour courir un demi-kilomètre?
Oui, il y en a qui sont présents, qui viennent. Dans le passé, mes amis ont justement fait des beaux discours. Ils ont pris la parole, puis ils ont remercié les gens d'être présents pour la cause, puis ils ont montré leur courage, puis qu'ils ne lâchaient pas, puis qu'ils étaient persévérants. Puis j'ai dans le passé des amis qui ont parlé, qui étaient présents. Cette année, ben c'est certain qu'il y en a qui vont être présents, mais je vais faire un appel à tous s'il y a quelqu'un qui est encore intéressé de venir faire un petit témoignage. Mais on va le savoir comme la journée même là, sur les lieux.
Ce qui n'a pas tombé dans l'oreille d'un sourd, c'est que vous avez du temps.
Oui.
Alors, on garde votre numéro de téléphone. On aime ça, nous, des gens, des organismes communautaires comme les nôtres, on aime ça, des gens qui ont du temps.
Ah oui, vous aussi, vous utilisez beaucoup de bénévoles.
Stéphanie, bonne journée dimanche. Merci. Gardez votre sourire, il est radieux dans nos oreilles. Ah. Et j'espère vraiment là, que il y aura, je sais pas, un sentiment pour tous ceux qui auront participé de « Je vais me coucher la tête haute ».
Ah, c'est bien gentil. Merci beaucoup.
On cause à des étudiants en éducation spécialisée dans 2 minutes. Vous êtes à Accès libre.
Vous écoutez Accès libre.
Très bon show jusqu'à maintenant, franchement. Des gens touchants, des gens impliqués, ce qui convient tout à fait avec la présence de Jean-François, parce que vous l'avez dit, vous êtes non seulement un gars qui court, mais un gars qui carbure au défi. Ouais. On a parlé du voyage aux Açores prévu pour juin prochain, c'est où vrai. On va amener des caravaniers de l'impossible, donc des personnes handicapées qui ont de la difficulté à se mouvoir dans certaines circonstances.
Puis... Et on a notre premier exercice au Mont-Saint-Hilaire samedi.
Oh.
Alors, si jamais des gens veulent venir nous saluer, là, on va être facile à repérer. On va avoir des sacs assez lourds sur notre dos.
Oui, les sacs corps à corps.
Voilà.
Ouais. Québec.
Oui, fait à Québec.
Tout à fait. Et là, il y a aussi avec nous des gens que vous voulez mettre un peu sur le sentier du défi. J'imagine le mandat qu'on se donne comme prof quand on forme des élèves.
C'est vrai, parce que nous avons devant nous 2 étudiants en technique d'éducation spécialisée du Cégep du Vieux-Montréal. Alors, j'ai Jonathan Galarneau.
Bonjour.
Et Raphaëla Girard.
Bonjour.
Effectivement, moi j'ai toujours l'occasion de donner un cours aux premières années. Jonathan, je t'ai jamais eu. Raphaëla, je pense pas non plus. Hein? Voilà, alors c'est dommage, j'aurais dû prendre des étudiants qui m'auraient encensé. Mais ça ne sera pas le cas aujourd'hui, Luc. Non.
Peut-être parce qu'on n'a pas trouvé.
Bon, c'est correct. Passons à autre chose. Donc, moi, la première chose que j'aimerais voir, c'est un peu votre parcours. Alors, Raphaëla, toi, raconte-nous un peu ton parcours qui t'a amené jusqu'à l'éducation spécialisée.
Ben en fait, j'ai toujours aimé ça, être en relation d'aide avec mes amis, avec mon entourage. Puis je pense que j'étais quelqu'un aussi de facile d'approche. Et j'avais un ami qui faisait du théâtre avec moi, qui était en éducation spécialisée, qui parlait des fois de son programme par-ci, par-là, mais je savais pas vraiment le nom du programme. Et jusqu'à la date limite pour m'inscrire au cégep... J'avais pas l'information encore, mais j'ai regardé sur la grande feuille avec tous les programmes, et j'ai vu éducation spécialisée. J'ai fait, il me semble que c'est ça le programme dont il me parlait. Uh-huh. Tout de suite, je me suis inscrite. Finalement, depuis ce temps-là, j'aime vraiment ça. C'est un programme qui me passionne, qui me représente beaucoup aussi comme personne.
Pas de regrets.
Non, pas de regrets.
On est dans
du
la
tout.
Bonne voie.
Là, on est en dernière année, Raphaël.
Oui, en dernière année.
Ouais, ils sont en stage en plus actuellement. Hein?
Oui, dans le jus du stage.
Oui, voilà. On vous a donné une petite pause, là. Oui. Voilà. Donc, Raphaël, là, c'est vraiment l'intérêt pour aller aider l'autre qui t'a amené à dire tiens, je pense que c'est une formation qui va me répondre à mes besoins, ça.
Oui, ça, j'ai fait beaucoup d'aide aux devoirs, aller dans l'école à ma mère qui enseigne en première année, aider ses petits bouts de choux à
comprendre. Donc, il y avait une expérience avant, là? Hein?
Oui, quand même, okay. C'est sûr, oui. Okay. Il n'y avait pas de problématique particulière, mais quand même, j'ai toujours été comme en soutien aussi.
C'est ça, tu t'es toujours mis en contexte d'aider l'autre,
oui,
d'une
exactement.
Certaine façon. OK. Mm. Alors, tout le monde te voyait là aussi, lorsque tu disais, tiens, je vais aller en éducation spécialisée, c'était comme, ah, oui, je te vois là, ou...
Oui, habituellement, les gens ils me disaient « Ah oh, ouais, éducation spécialisée, c'est vraiment toi, ça. » Puis ma mère aussi était super contente de me voir que j'allais faire une technique dans ce programme-là.
Fait, OK. Ouais. Un bon soutien autour de toi.
Oui, vraiment.
Excellent. Et de ton côté, Jonathan, c'est presque toi. T'es pas un petit jeune, là.
Non.
Hein? On sort pas du secondaire lorsqu'on débute la technique, là, pour
non,
toi.
Non, non, non. Moi, j'ai débuté la technique à peu près 10 ans après ceux qui sortent du secondaire, là, en fait. Donc, j'ai peut-être un parcours un peu plus... disons, un peu plus atypique que le reste de la population cégepienne.
Mm-hmm.
En gros, ce qui m'a amené à l'éducation spécialisée, je pense que je ne t'ai jamais dit à toi, Jean-François,
non,
mais
non,
c'est
je vais l'apprendre.
Ouais, c'est le documentaire des Chipirous.
Ah ben voilà.
Ouais, une grosse révélation.
Et tu l'avais vu à quel endroit?
J'ai vu ça à Canal Vie.
Ah oui.
Ouais, je m'en souviens encore, novembre 2009, là, genre à peu près. Là.
OK.
Ouais. À ce moment-là, je ne savais pas que l'éducation spécialisée existait. Mm-hmm. Je me doutais qu'il y a des gens qui faisaient ce genre de métier-là, mais je me suis demandé c'était quoi justement ce métier-là. Évidemment, à ce moment-là, je n'avais pas nécessairement de formation ou quoi que ce soit. Je me cherchais encore, là, comme on dit.
Mais c'est le fun, on fait des voyages.
Oui, exactement. Bon. J'ai pas eu la chance de le faire.
Non, c'est ça.
Donc, c'est ça. Puis, c'est quelque chose, l'éducation spécialisée, c'est quelque chose qui m'est resté en tête pendant vraiment longtemps. Mm. Souvent, quand j'avais une idée qui me venait après quelques semaines, quelques mois, ça s'en allait, mais l'éducation spécialisée, ça restait pendant un petit bout. Puis c'est ça qui m'a amené à finir par m'inscrire là au cégep, puis à être accepté éventuellement.
Ouais. Et puis est-ce que toi, tu avais eu aussi des expériences où tu t'es retrouvé dans des situations où tu aidais les gens, ou est-ce que les gens allaient te parler à toi plus qu'à d'autres?
Ben oui, ça a toujours été comme ça dans ma gang d'amis. Là, je suis celui qui attirait les gens ou qui se mettait à parler à presque n'importe quand, on va dire ça comme ça. Mais je me souviens qu'en secondaire, je me suis souvenu à ce moment-là qu'en secondaire 1, à l'école où j'étais, il y avait justement une classe là, avec des jeunes qui ont une trisomie 21. Puis je passais souvent mes dîners avec eux juste pour le plaisir. Tu sais, les autres, ça leur faisait plaisir de passer du temps avec d'autres gens que juste ceux qui sont dans leur classe. Là, donc, je me suis souvenu que je faisais ça puis que j'aimais ça faire ça aussi. Donc, ben, je me suis dit, ben, pourquoi pas, tu sais, je vais l'essayer. Puis moi non plus, j'ai pas encore de regrets aujourd'hui. Non.
Puis vois, Luc, excuse-moi, c'est vraiment ce que les deux ont mentionné, c'est vraiment ça qu'on retrouve dans beaucoup de nos étudiants. Souvent, ils prennent conscience, c'est parce que les gens vont les voir davantage, parce qu'ils ont une bonne écoute. Puis la plupart de nos étudiants, c'est comme une base commune, ça.
Pourquoi t'as choisi Raphaëlla et Jonathan?
Jean-François. Oh, très, très bonne question. Hein? Je me souvenais de ces deux personnages, étant donné que j'ai eu l'occasion de les placer en stage de première année. Et Jonathan a fait son stage avec le regroupement pour la trisomie 21. Raphaëlla était à Laval, elle avec l'aide aux devoirs, je pense, c'est ça. Et par la suite, bon, je les côtoie parce que je les vois de temps à autre. Et j'ai relancé ces professeurs en leur disant « si j'invitais ces deux personnes, est-ce que tu penses qu'on pourrait en retirer beaucoup? » Et ça a été unanime. « Ouais, aucun problème, vas-y avec ces deux-là, ça va bien embarquer. »
On parle beaucoup de trisomie, juste placer les gens en contexte, ceux qui l'ignorent, Jean-François est papa de 4 enfants, dont le plus vieux, Carl, qui est trisomique. Ouais. Et il est l'initiateur donc du Défi Pérou qui a résulté en ce Trisomie 21, Défi Pérou, le film auquel Jonathan faisait allusion. Mm-hmm. Je vous pose la question aux trois. J'ai envie d'abord de commencer peut-être par la plus jeune, présumant qu'elle a peut-être un petit peu moins de vécu, donc sa réponse va être moins complète, puis les autres pourront la compléter. Prove me wrong, comme dirait l'autre. Mm-hmm. Raphaëlla, quelles sont les qualités d'un bon éducateur spécialisé?
En fait, il y en a plusieurs. À mon avis, la première qui rejoint tous, c'est l'empathie. Qui est vraiment présente chez mes amis en éducation spécialisée aussi. C'est drôle de nous voir aller puis de toujours s'intéresser un peu plus aux autres. Sinon, il y a l'écoute aussi qui est vraiment super important. Il y a l'intégrité. Puis je dirais aussi l'optimisme. Dans le fond, pour croire que dans chaque personne, il y a du potentiel. Peu importe les difficultés qu'ils vivent ou c'est quoi leur parcours. Comme éducateur spécialisé, c'est important de toujours croire à nos clients puis aux personnes avec qui on est pour pouvoir les soutenir jusqu'à la fin quand on est dans leur vie.
Oh, ça, j'aime ça entendre ça, moi.
Jonathan?
Mm-hmm. Ben, Raphaëlla a tout dit, je pense. Je pense que...
Il me semble qu'il manque un peu de pédagogie, là, parce que ça reste un éducateur. C'est pas juste une personne ressource.
Ouais. Il y avait beaucoup de théories dans ce que Raphaëlla a dit, mais ça reste quand même vrai. Puis je rajouterais par contre... la connaissance de soi, c'est important aussi de se connaître en tant qu'éducateur, en tant qu'intervenant. C'est important de connaître ses limites aussi. Oui, on mm-hmm. a beau croire dans le potentiel de tous nos clients ou des gens qu'on côtoie. Par contre, des fois, faut savoir qu'on a des limites envers eux, autant qu'ils ont des limites envers nous des fois aussi.
Ouais, faut être capable de mettre la ligne. Faut être capable parce que c'est sûr, comme j'ai mentionné, souvent, c'est des étudiants qui veulent beaucoup, beaucoup aider. Mais à un moment donné, il faut être capable de mettre la ligne pour ne pas non plus se perdre là-dedans. Là, parce qu'on travaille avec des gens qui ont souvent beaucoup de problématiques, donc il faut faire attention aussi à savoir mettre la ligne pour arrêter. Je pense qu'on a aussi tout ce qui a trait à l'adaptation aussi. L'éducateur doit s'adapter beaucoup à de nouvelles clientèles, à des gens aussi qui sont très différents, parce que tu peux avoir une personne qui est autiste devant toi, puis ça ne sera pas la même quand tu vas aller dans l'autre classe à côté avec une autre personne. Ça va être important de savoir adapter l'environnement aussi pour les besoins de ces gens-là, pour leur donner une participation sociale. Raphaëlla l'a dit, il y a énormément de qualités qu'on va tenter de rechercher et qu'on va aussi essayer de développer pendant la formation. Mais moi, j'essayais de voir un peu, qu'est-ce que vous retenez le plus de votre enseignement? Là? Vous êtes rendu à la fin. Qu'est-ce qui vous a marqué dans cet enseignement-là?
Dans
la formation, dans la formation que vous avez reçue, oui.
Qu'est-ce qui m'a marqué le plus? Je pense que c'est tous nos travaux en équipe. C'est toutes les techniques qu'on a apprises d'approche. C'est aussi toutes les clientèles qu'on a vues avec leurs différents besoins puis qui nous restent maintenant, qu'on a appris par cœur aussi.
Avec les tableaux, hein?
Oui, aussi, avec nos magnifiques tableaux. Mais ça, c'est des choses qui nous restent toujours. Puis nos profs aussi qui nous marquent beaucoup dans notre technique parce que c'est des éducateurs puis qui sont présents pour nous puis qui nous donnent plein d'informations puis d'expériences de vie. Fait que je pense que c'est plein de choses qu'on retient aussi de notre technique. Là. C'est super varié.
Et de ton côté, Jonathan?
Moi, je pense que c'est le gros bagage qu'on est capable de se faire en peu de temps. Là. Dans le sens où je ne considère pas avoir beaucoup d'expérience avant d'avoir commencé la technique. Puis finalement, je me rends compte que 3 ans plus tard, je vais sortir avec un bagage assez bien rempli. Que ça soit avec ce que Raphaëlla a dit, là, donc en voyant les différentes clientèles, en voyant les différentes approches pour intervenir envers ces clientèles-là, ou à travers les professeurs aussi, là, qui encore une fois sont tous passionnés, là, ça c'est sûr et certain. Mm-hmm. C'est des gens qui sont dans le milieu depuis plusieurs années, c'est des gens qui aiment ça être dans le milieu, qui transmettent leur passion, puis ça c'est un des côtés que moi j'ai beaucoup aimé dans la formation. Là.
Qu'est-ce que fait un éducateur spécialisé et que ne fait-il pas?
C'était justement ma question qui était pour venir pour dire si moi j'avais une problématique, une déficience, qu'est-ce que vous pourriez m'apporter à moi? Pourquoi j'aurais besoin de vous? Puis qu'est-ce que vous pourriez m'apporter?
Je pense qu'on commencerait par t'observer.
Okay.
Ouais, ça prend un bon sens d'observation. En fait, un éducateur, ce que ça fait, c'est ça. Donc, ça commence par observer quelles sont les problématiques d'un client.
Sommes-nous uniquement en contexte scolaire ou vous pouvez intervenir ailleurs?
Absolument pas. Okay. D'ailleurs, c'est une des questions qu'en tout cas, personnellement, je me fais le plus poser, mm-hmm. c'est... Mm-hmm. Mais où c'est que ça travaille, un éducateur ouais, spécialisé?
Et on les voit souvent dans les écoles, les centres ouais, jeunesse. C'est ça. C'est souvent les deux.
Oui, puis c'est là qu'on entend le plus le mot, peut-être. Là. Mais ouais, école, hôpitaux, CHSLD, centre jeunesse. Ça peut être au communautaire, là, en toxicomanie, ouais. prostitution, femmes victimes de violences conjugales, etc. Il y a autant de milieux que d'éducateurs, là, pratiquement. Donc... Il y en a qui font du privé, là, je veux dire, à la maison pour aider des familles dans leur problème avec des enfants qui vivent une problématique, par exemple. Donc, voilà. Donc, c'est ce que ça fait un éducateur, c'est ce que ça observe. Ça met en place des objectifs à atteindre pour le client, en fait. Et ça aide le client, donc, à atteindre ces objectifs-là.
Mm. Puis Raphaël, c'est exactement ça. C'est d'être là, c'est en premier aussi de créer un lien de confiance. On ne peut pas arriver puis rencontrer quelqu'un puis tout de suite lui donner des choses à faire puis des choses à appliquer. Il faut aussi créer un bon lien pour après ça partir de ses besoins à lui. Ce n'est pas nous qui décide c'est quoi qui a travaillé chez lui, c'est la personne qui nous dit ce qu'il a envie de travailler. Puis ensemble, on trouve des choses puis des solutions puis des moyens. Puis si on lui dit aussi c'est quoi les ressources qu'il y a disponibles pour si nous, ça dépasse de nos compétences aussi, là, on peut le référer au CLSC, on peut faire plein de choses comme ça aussi.
Ouais. Moi, je me souviens, la première fois que j'ai eu contact avec une éducatrice spécialisée, c'était à la naissance de Carl. Je ne connaissais pas du tout ce monde-là, je n'étais pas enseignant dans ce monde-là. Et c'est la première qui est venue chez nous, professionnelle. Et effectivement, c'est un peu ce que vous venez de me dire, c'est que la première chose qu'elle m'a demandé, ben, comment j'allais, comment c'était avec Carl. Carl, elle l'a observé, elle a vu un petit peu quels étaient ses besoins et elle a commencé à me donner une série d'exercices, de stimulation que je pouvais faire avec Carl. Et elle était toujours mon point de repère un peu pour me donner des informations sur qu'est-ce qui pouvait exister ailleurs, comment je pouvais m'y prendre pour aider Carl quand est venu le temps de vouloir avoir la marche. Alors, elle est toujours là pour t'assister dans les besoins que tu peux avoir, pour trouver justement une solution ou enfin essayer d'adapter autour de toi et t'amener un peu plus loin. En tout cas, moi, c'était mon premier contact, puis j'avais dit, mon Dieu, une chance qu'elle est là.
Mais l'auditeur a peut-être l'impression que tu décris le travail d'une travailleuse sociale.
Alors ça, c'est toujours la question qu'on se pose. Bon, quelle est la démarcation entre les deux? C'est vrai qu'il y a plusieurs professions comme ça qui s'entrecroisent. On voit dans les CHSLD, Jonathan en a parlé, on a souvent des personnes qui sont des techniciens en loisirs dans les CHSLD. Chacun a ses objectifs. Chacun va travailler différentes problématiques ou différentes approches avec la personne concernée. Mais le travailleur social, souvent, ça va être une personne, effectivement, qui va faire beaucoup de références à partir des besoins. L'éducatrice spécialisée va souvent être dans le concret, c'est-à-dire venir chez moi et vraiment voir qu'est-ce qu'il y en est. Et elle peut référer, effectivement, au travailleur social. Ouais. Tout à fait.
Est-ce que vous avez déjà une idée? Parce que, bon, Jean-François le mentionnait, Raphaëlla, Jonathan, vous, tranquillement, là, on voit la fin pour l'obtention du diplôme. Avez-vous déjà une petite idée du type de besoin que vous aimeriez peut-être aider ou est-ce que si c'est pas une clientèle précise, ça peut être un milieu particulier?
Bien, pour ma part, c'est sûr qu'en ce moment, j'ai travaillé beaucoup avec les enfants. Puis je sais que d'emblée, c'est une clientèle qui m'intéresse, peu importe les difficultés. Mais je vous avoue qu'après ma technique, je n'ai pas d'idée de où je vais m'en aller. Je sais que j'ai envie de travailler comme éducatrice spécialisée, mais là, à ce moment-là, je ne sais pas si je vais aller me spécialiser à l'université pour continuer mes études aussi, puis prendre un peu plus d'expérience et d'âge. Mais sinon, les enfants, c'est sûr que c'est une clientèle qui m'accroche beaucoup.
Jonathan, est-ce qu'on a des idées déjà?
Je sais pas trop. C'est sûr que ça va dépendre de ce qui s'offre également. Mais je dirais que tout ce qui est déficience intellectuelle, pardon, j'ai une assez grande facilité à cette type de clientèle-là. Sinon, enfance aussi, j'ai fait mon deuxième stage en centre jeunesse et j'ai vraiment plus aimé ça que ce que je m'attendais. Donc, c'est un milieu dans lequel je me verrais peut-être aussi Du moins en enfance, en adolescence, ça reste à essayer. C'est un milieu différent.
Jean-François, je ne sais pas si tu as les données, mais est-ce qu'il y a des clientèles qui sont plus populaires que d'autres en général?
Habituellement, lorsqu'ils arrivent, on les accueille la première journée au cégep et on se rend compte qu'une grande majorité, ce qu'ils nous parlent, c'est les centres jeunesse.
Ah, oui.
Troubles du comportement, okay. Adolescents, centres jeunesse. Déficience intellectuelle, personnes âgées. Oh, ça arrive, là, mais c'est pas fréquent.
Ouais.
Et c'est ça qui est beau dans cette formation-là, c'est que, comme Raphaël a mentionné, on a plusieurs clientèles qu'on voit et il y a des stages. Ils ont 3 stages et les stages leur permettent d'aller voir autre chose que ce qu'ils sont rentrés avec l'idée. Parce qu'on aime bien leur diversifier un petit peu les horizons. Donc, on se dit, OK, bon, d'accord, toi, c'est les centres jeunesse, t'aimerais ça aller voir ça, d'accord, mais ton stage 1, si on t'envoie à tel endroit, va donc voir à quoi ça ressemble, va voir qu'est-ce que tu peux en retirer aussi. Puis, il y a des fois des étudiants qui reviennent en disant, waouh, ah ben, les personnes âgées, je pensais pas, mais c'est intéressant, je suis pas certain, mais je suis content de l'avoir vu, puis peut-être que ça me dérangerait pas. Alors, ça permet d'ouvrir un peu plus large au niveau des stages. Puis, vous, les stages, qu'est-ce que vous en avez retiré? Qu'est-ce que vous avez aimé? Qu'est-ce que vous avez apprécié là-dedans?
Bien, pour ma part, c'est exactement ce que tu viens de dire, Jean-François. Moi, j'étais allé en centre jeunesse en stage 2 parce que je me voyais absolument pas avec cette clientèle-là. Mm. C'est pas quelque chose qui m'attirait, mais je me suis dit, je vais y aller en stage, je vais l'essayer, ça va être fait. Puis au moins, si j'aime pas ça, ben ça sera juste un stage. T'sais, ça sera pas mon travail.
Ouais.
Puis finalement, ben agréable surprise, j'ai vraiment aimé ça. C'était complètement différent de ce à quoi je m'attendais. C'est différent de ce qui est des stéréotypes, là, je pense, de la société, là, je dirais. C'est pas mal ce que j'en retire, là, du moins de mon stage 2. Pour le reste, c'est vraiment, comme j'ai dit tantôt, c'est un bagage d'expérience. Donc, c'est de l'expérience qu'on accumule, puis qu'on accumule. Puis c'est des façons d'intervenir qu'on apprend. Puis, ben, en gros, c'est ça.
Mm. Oui. Et Raphaëlla?
Ben moi aussi, c'est un petit peu comme Jonathan. À mon stage 2, je me suis ramassée dans une classe TSA avec des jeunes de 9 à 11 ans. Puis au départ, quand je suis rentrée en technique d'éducation spécialisée, moi, je me suis dit, déficience intellectuelle, TSA, je suis pas trop sûre parce que, en fait, je savais pas non plus qu'il y avait des degrés aussi là-dedans de niveau. Mais finalement, c'est un de mes coups de cœur. J'ai vraiment aimé ça être avec des classes TSA. Et je trouve que c'est tellement des enfants attachants qui t'apportent tellement d'expérience puis qui te remettent tellement en question des fois. Mais sinon, en stage aussi, tu rencontres des nouvelles personnes, tu apprends à travailler en équipe pour vrai avec des gens avec plein de sortes de gens, puis à travailler aussi de façon professionnelle puis d'amener tes idées. Puis tu peux tout appliquer ce que tu as appris puis apporter aussi un petit peu de ta personne là-dedans. Puis tu te rends compte à quel point tu as de l'impact aussi, puis que c'est ça que... Tu te rends pas compte à quel point que tu fais la différence des fois dans des milieux.
Oui, c'est souvent ça, moi, que je leur dis aux étudiants. Attention, votre travail, c'est pas comme un architecte où lui, il va construire un pont, il va construire une maison, il va l'avoir, sa maison. Vous, moi, je les appelle les agriculteurs de l'esprit. Ils viennent semer de petites graines dans la tête de gens. Et des fois, tu vois le résultat, mais parfois, tu vas terminer ton stage, terminer ton travail là, ou la personne va quitter la ressource, et tu le sauras pas ce que ça donnait. Et malheureusement, on ne les revoit pas toujours par la suite. Mm-hmm. Et moi, ça m'est arrivé une fois dans ma carrière où j'ai revu un jeune que j'avais vu à l'école secondaire, qui était rendu beaucoup plus âgé actuellement, et il est venu me remercier. Puis moi, ça a été comme, wow! OK, donc lui, que je pensais que je n'avais pas fait de différence parce que quand il a quitté, il était pas mal pareil comme au départ, il avait eu la chance de réfléchir à tout ça et ça l'avait amené à aller plus loin. Alors, c'est ça que je leur dis. Faites attention, vous ne le voyez pas concrètement tout de suite, mais c'est plus tard que ça va arriver, puis des fois, vous ne le voyez pas. Alors, il ne faut pas être découragé. Il faut toujours continuer à semer les petites graines, puis on se dit, celle-là, j'espère qu'un jour, elle va donner quelque chose.
Mais moi, je me suis rendu compte de ça à la fin de mon stage 2, justement. Ouais. C'est quand mes enfants TSA, qui ont la difficulté avec les contacts, puis tout ça, ils sont venus me voir à la fin, à ma dernière journée de stage. Ils sont tous venus me donner des câlins.
Wow.
Tu sais, j'en revenais pas. J'étais tellement émue, puis j'étais contente. Puis je suis retournée pour les voir à la fin aussi de l'école, après mon stage, comme peut-être un mois après. Puis quand je suis rentrée dans la classe tout de suite, « Ah, oh, Raphaëlla! » Puis ils sont venus me voir, puis me donner des câlins fort, fort, fort. Puis je voyais, tu sais, qu'ils s'ennuyaient, puis qu'ils m'avaient apprécié pendant que j'étais là.
C'est ces moments-là qu'il faut retenir.
L'aspect pédagogique, quelle place prend-il? Parce que à la fois, on veut aider, écouter, épauler, donner des trucs, mais il y a aussi des atteintes. Je veux dire, il y a un programme qu'on met de l'avant, puis il y a des objectifs à atteindre dans ce programme-là. Où est la place de la pédagogie dans une relation aussi émotive peut-être que celle que vous pouvez vivre avec vos jeunes, si on prend les jeunes?
Une bonne question.
Oui, c'est une très bonne question. un petit peu difficile à répondre. Je dirais que la pédagogie vient appuyer les personnes qu'on est déjà à la base, là. Je pense qu'elle vient nous pousser un peu plus loin dans ce qu'on est, dans ce qu'on veut faire. Évidemment, il y a des évaluations et tout, mais on est évalué... au final, je pense qu'on est évalué sur ce qu'on est capable de faire. Pas nécessairement concrètement, j'ai un petit peu de misère à l'expliquer, mais la façon de le faire, plus que le résultat que ça donne, en fait. Là.
OK. Je ne
sais pas si ma réponse est très claire.
Peut-être. Est-ce que lorsqu'on se fixe des objectifs, en fait, puis je me tourne vers Jean-François, ouais. Est-ce qu'une personne peut préférer, disons, être avec un groupe, mais être plus habileté à aider un autre type de personne? Exemple, Raphaëlla aime les jeunes, elle est touchée par les jeunes. Mais elle serait bonne avec les. Elle serait peut-être meilleure avec les adultes handicapés visuels.
Oui. Et c'est fort possible. Et souvent, ils ont des compétences transférables. Et c'est ça qu'on essaie de leur rappeler. Des stages, parfois, c'est des endroits où tu apprécies un peu moins, c'est une clientèle qui te tente moins, mais il y a des compétences que tu vas aller développer, que tu peux transférer ailleurs. Et effectivement, je pense qu'au fil de leur formation, ils finissent par trouver avec qui ils se sentent le plus à l'aise, avec qui je vais pouvoir donner le maximum de ce que je suis. Et chaque éducateur trouve sa place, je l'espère, avec une clientèle qui se sent à l'aise avec. Mais ça se peut effectivement qu'après quelques temps, on se rende compte qu'on n'est plus trop à l'aise avec la clientèle, on a moins de patience aussi. Puis moi, je leur rappelle de dire, je sais que c'est facile à dire, mais ne soyez jamais captif d'un boulot parce que vous travaillez avec des humains. Et moi, j'aime bien voir un éducateur qui a le sourire et qui a le plaisir de travailler avec l'autre parce que l'autre a le droit de recevoir ça, un peu comme Raphaël a dit, d'avoir confiance dans tes capacités, d'être capable de reconnaître ton potentiel. Mais si j'ai plus aucun intérêt de travailler avec toi ou dans la ressource où je suis, puis-je sortir et aller ailleurs? Je sais que c'est facile à dire, il faudrait ne pas se retrouver captif de ça. Ça serait important, ça. Il y a une question que je me pose toujours, parce que moi, je crois que lorsque vous rentrez en première année et lorsque vous quittez à la troisième année, vous n'êtes plus les mêmes. C'est ce que je perçois. Puis là, moi, je me demandais, puis là, c'est le fun, j'en ai deux devant moi que je vais pouvoir questionner. Est-ce que ça vous change? Est-ce que ça vous transforme?
Réponse courte, oui.
Et de quelle façon?
Ben oui, c'est sûr que ça nous change. Je dirais que, premièrement, pour y aller avec la réponse facile, quand je suis rentrée en éducation spécialisée, je savais pas ce que ça faisait un éducateur, mais pas du tout. Fait qu'au niveau des connaissances, j'avais aucune idée de ce que je pouvais faire. Puis là, maintenant, je sors, puis tu sais, je sais où que je peux aller travailler, je sais comment je peux aider les gens autour de moi et tout ça. Mais je suis aussi... maintenant, plus sensible aux autres. Quand je me promène dans la rue ou quand je suis dans le métro puis que je vois les gens, j'ai moins le jugement facile parce que maintenant, je comprends mieux ce qui se déroule autour de moi. Fait que c'est vraiment au niveau de la sensibilité comme personne qui se développe durant la technique. Puis des gens qui sont dans la technique aussi, que souvent ont des problématiques particulières qu'on rencontre souvent. Mais oui, c'est vraiment au niveau... la sensibilité, puis la maturité qu'on prend. Puis au niveau professionnel, dans nos analyses cliniques, ben, des analyses qu'on fait, des vignettes et tout ça. Fait c'est tout ce regroupement-là.
Est-ce que les gens autour de toi ont dit « Mon Dieu, t'es plus pareil, Raphaëlla. » Est-ce que ça, c'est des commentaires que t'as pu recevoir?
Pas vraiment, parce que je pense qu'on reste quand même, au fond, on reste la même personne, là. Je pense que les gens, c'est trop
subtil. Surtout si vous disiez être aidante de nature.
Ouais. C'est plus au niveau personnel qu'on change dans nos perceptions, pas dans ce que les gens voient de nous. Là.
OK.
Ouais.
Et Jonathan?
Ouais, je dirais que c'était peut-être dans mes relations interpersonnelles que ça a changé. C'est certain que je peux pas vraiment dire que j'ai pris la maturité à l'âge où je suis rentré. Là, je veux dire, je dis ça humblement, là, mais éventuellement, on atteint un certain degré. Là, mais dans mes relations interpersonnelles, là, vraiment, de comment j'interagis avec les autres versus comment je perçois ce que les autres me donnent. Si quelqu'un dans mon entourage va pas bien ou est en difficulté ou quoi que ce soit, je sais plus maintenant pourquoi je fais ou que je dis telle chose.
Ce qui est intéressant, c'est que c'est un job qui ratisse tellement large.
Oui.
Hein? On parle
oui.
d'élèves de première année ou d'élèves dans un centre jeunesse. C'est pas le même bout de chou, là. C'est pas c'est la vrai. Même réalité,
non,
c'est
non,
même
non.
pas la même façon d'intervenir.
Ouais.
C'est
différent.
C'est différent. Juste très, très rapidement, est-ce que pour vous, la société est plus inclusive qu'avant?
Qu'avant? C'est difficile à dire. Oui, mais non.
OK.
Ça dépend des sphères.
Et Raphaël,
moi aussi, ouais. je dirais un oui, là. Avec un N au début.
Hey, un gros merci pour votre présence.
Merci
c'est
à
bien,
vous,
bien apprécié.
Merci.
Ça fait,
merci.
Qu'est-ce que j'ai ici, là? Bon, je cherche les noms. Raphaëlla.
Raphaëlla, Gérard et Jonathan Galarneau, deux étudiants en techniques d'éducation spécialisés du Cégep du Montréal. Merci beaucoup. Et je pense que vous avez donné le goût à bien des gens de s'en venir dans notre formation. Là.
On souhaite.
Surtout, en tout cas, à voir qu'il y a des gens pour aider. À la semaine prochaine, tout le monde. Salut, Jean-François.